Demain commence à Perpignan la première édition du festival Nature, le regard féminin qui va nous interroger sur un certain nombre de questions. Depuis le 19e siècle, les femmes ont été très nombreuses à participer à la défense de la nature et des animaux. Peut-on dire pour autant qu'il existe un regard au féminin sur la nature? Ce rendez-vous donc à Perpignan se veut l'exploration d'une perspective féminine sur la nature. Et je reçois dans un instant l'historienne de l'environnement Valérie Chansigaud qui va participer à ces discussions et en parler avec vous dans un instant. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 45 24 7000 franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans quelques minutes ensemble.
Avec les abeilles de Radio France, vous allez les entendre.
Caroline Tourbe est également avec nous comme tous les vendredis. Dans la deuxième demi-heure, Caroline, votre chronique détox.
Eh bien oui, et moi je vais parler aussi d'insectes, mais de moustiques qui piquent, de moustiques tigres et de liens ou pas avec le réchauffement climatique.
Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Manuela, une auditrice qui sera en ligne de Mayotte pour nous parler d'une protection de la biodiversité au travers d'un projet. Et puis enfin, notre invité découverte est l'ethnologue Charles Stepanov pour son livre « Voyager dans l'invisible autour du chamanisme ». Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Céline Hila avec à la technique Rémi Sistiaga, Nicolas Cazot et Alix Barrois.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à quelques heures de votre départ pour Perpignan, puisque ce sera donc la première édition demain de ce festival Nature, le regard féminin. Vous êtes historienne de l'environnement et vous serez présente avec de nombreux autres invités pour participer en ce qui vous concerne à deux discussions. La première, ce sera demain à 10h30 sur le regard féminin, justement. Et puis la seconde, dimanche à 10h, écrire la nature du point de vue des femmes. Comment cela pourrait-il aider à sauver le monde? Rares sont donc les femmes qui ont été à l'origine d'écrits sur la nature, c'est ce qu'on découvre hein, en étudiant un petit peu la question. Les mâles dominants ont longtemps squatté ce domaine hein.
Avec des grandes variations régionales, on trouve quand même beaucoup plus de femmes actives et visibles dans le monde anglo-saxon, par exemple, par rapport au monde français. Elles ont plus de facilité à être visibles et à être audibles. C'est un rôle qu'on attend des femmes, encore une fois, dans cet univers anglais ou américain, et bien moins en France.
Et comment on l'explique ça, justement, que les pays anglo-saxons soient plus propices, finalement, pour les femmes à une étude de la nature?
Bien, en fait, quand on regarde les choses dans le détail, on se rend compte que d'une façon général, les droits des femmes ont été acquis plus tôt et de façon plus large dans ces pays par rapport à la France qui a été beaucoup plus rétrograde. La France a été quasiment le dernier pays d'Europe occidentale à accorder le droit de vote aux femmes, par exemple. Il y a eu vraiment une sorte de retard à accepter la place des femmes dans la société. Je fais le lien, même si c'est pas une cause unique et suffisante pour expliquer, au fait que la France a été sans doute rurale beaucoup plus longtemps. Or, la cause des femmes progresse dans les villes et par les villes. Ce sont des urbaines qui se mobilisent et qui font entendre leur voix. Comme d'ailleurs, ce sont des urbains et des urbaines qui se mobilisent en faveur des animaux ou de la nature.
Alors, cette question, existe-t-il une spécificité du regard féminin sur la nature et le monde sauvage? J'imagine qu'autour de ce sujet, tout le monde, et chez les femmes en particulier, ne va pas être d'accord. Hein.
J'imagine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est à la fois, qui paraît évident et qui ne va pas de soi dès qu'on l'analyse. C'est quelque chose de compliqué. Ouais. Parce que si on prend par exemple des actrices du 19e siècle qui ont été extrêmement nombreuses à se mobiliser pour la protection des oiseaux sauvages. Il faut imaginez qu'à la fin du 19e, des sociétés de protection des oiseaux sauvages rassemblent 70 000 personnes en Allemagne et en Angleterre, plusieurs centaines de milliers aux États-Unis, et à 70%, ce sont des femmes. Mmh. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas présentes. Et elles sont aussi à l'origine de beaucoup de mobilisations. Mais on se rend compte qu'il y a une sorte de discours complexe, ambigu, contradictoire, entre l'idée de devenir des sujets autonomes, de s'individualiser, d'acquérir des droits dans la société, et en même temps, les discours qui sont tenus par ces femmes revendiquent une sorte de spécificité naturelle de la femme, plus sensible que les hommes, garante de l'harmonie du foyer, et en fait, ça renforce encore une fois, de façon simultanée, les
stéréotypes,
les préjugés. Oui. Et en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a des choses parfois totalement contradictoires. Je ne sais pas si je peux vous donner un petit exemple. En 1870, il y a une femme américaine, Celia Taxter, qui écrit un texte magnifique pour dénoncer ces femmes qui suivent la mode et qui arborent sur leur chapeau des plumes d'oiseaux, des becs, des têtes, etc. Elle parle de charniers. Oui. C'est des termes extrêmement forts. Elle le fait où? Dans un magazine féminin, le Harper's Bazaar, et quelques pages plus loin, il y a des conseils de mode qui, ou même lectrices, pour leur décoration de chapeau. Donc, là aussi, on est dans des choses très, très complexes et contradictoires.
Alors, justement, ces femmes qui ont été des porte-parole très importantes, hein, pour la nature, on le voit bien aussi, ont rarement pu passer le cap, en tout cas au 19e, de la recherche ou de la science, par exemple.
Hein. Ou même pendant très longtemps, au 20e, quelqu'un comme Rachel Carson, par exemple, qui est une figure extrêmement importante.
Avec le printemps silencieux. Hein,
avec le printemps silencieux qui paraît en 63. Elle ne fait pas véritablement de carrière scientifique pour deux raisons. Parce qu'elle est une femme, mais pas seulement. C'est aussi parce qu'elle est plutôt pauvre et qu'elle doit s'occuper de sa famille. Et donc, il faut trouver un métier très vite, et la carrière scientifique qu'elle songe à suivre, en fait, sera inaccessible. Et la porte de sortie qu'elle trouve, c'est... J'aime pas cette expression parce que en anglais c'est plus subtil, j'irais de vulgarisation littéraire. Elle parle de la nature d'une façon merveilleuse. Absolument. Ce sont des chefs-d'œuvre littéraires.
Elle a eu un rôle très très important dans la prise de conscience aussi.
Oui, tout à
la
fait.
Société, hein.
Elle va écrire des ouvrages magnifiques sur la mer et ses habitants, et elle va se servir de cette notoriété qu'elle a avec ses textes pour engager le combat contre les pesticides. Donc, mais son statut est un statut quand même relativement... elle a un strapontin, mais elle n'a qu'un strapontin.
Alors pour vous, Valérie Chansigaud, est-ce qu'il y a une spécificité du regard féminin sur la nature et le monde sauvage? J'aimerais bien avoir votre avis à vous sur cette question.
D'un point de vue social...
Sur l'écriture même aussi, hein, la façon dont on se représente aussi la nature.
D'un point de vue social, d'un point de vue culturel, c'est clair que ça peut être le cas. C'est pas nécessairement le cas, mais ça peut être le cas, encore une fois, parce que les femmes peuvent exceller dans des domaines j'irais rentrer en compétition avec l'écriture masculine. Ça vient pas forcément de leur nature biologique profonde, ce que je ne crois pas, mais par contre de leur environnement culturel, du poids des traditions, de ce qui leur permet de s'exprimer, oui. Donc, en fait, il y a une spécificité, mais encore une fois, elle n'est pas d'origine biologique.
Oui. On entend beaucoup parler d'écoféminisme en ce moment, même si ça existe depuis un certain temps, d'ailleurs depuis quasiment les années 80, avec les féministes anglo-saxonnes en particulier, hein, qui ont fait le lien entre la destruction de la nature et l'oppression des femmes. Ça, c'est une nouvelle forme de mobilisation, de faire justement ce parallèle.
Ah, nouvelle, j'en suis pas si convaincu. Qu'elle soit aussi forte et aussi qui s'exprime à ce point, oui, c'est nouveau, mais dès les années 1870, je pense en remontant, on doit pouvoir trouver d'autres exemples, on a des féministes qui disent, en fait, qui établissent que l'exploitation et la cruauté faite aux animaux est le reflet de la cruauté faite aux femmes. Je pense à une féministe française qui lutte contre la vivisection, elle dit que l'indifférence des médecins à l'égard de la souffrance animale reflète l'indifférence de ces mêmes médecins à l'égard de la souffrance des femmes dès lors qu'elles doivent consulter, en fait, un médecin. Une médecine qui, à l'époque, était largement masculine. Et c'est une analyse qui n'est pas fausse, parce qu'on sait bien que le fait que cette médecine ait été si longtemps dominée par les hommes fait que certains aspects de la vie d'une femme ne sont pas forcément pris en compte.
Donc il y a toute cette idée de cette oppression, de cette dévalorisation, en tout cas, des femmes et de la nature, qui peuvent être mis en parallèle et qui représentent un vrai combat aujourd'hui, tout à fait cohérent.
Tout à fait. On peut ne pas être d'accord avec ce combat, avec ses valeurs, etc. Peu importe. Mais quand même, il y a quelque chose que je trouve très intéressant qui se passe aujourd'hui, mais vraiment là, c'est la montée d'un rejet complet de toute protection de la nature, de gestion de l'environnement, notamment par la droite la plus radicale. Oui. Et dans le même temps, cette droite très radicale est porteuse d'un anti-féministe qui... qui s'annonce clairement. Et curieusement, on retrouve là, en fait, de désirs, de projets politiques extrêmement assumés, de refuser de protéger l'environnement et de refuser d'accorder des droits d'égalité aux femmes.
Alors, quelques exemples de femmes très engagées, vous le disiez tout à l'heure, Rachel Carson, par exemple, très peu connue en France, hein, c'est quand même incroyable, alors que c'est une méga star dans les pays anglo-saxons. Hein,
il faut imaginer qu'aux États-Unis, il y a au minimum entre 40 et 50
biographies,
c'est vrai. Y compris une bonne partie, il y a à peu près 20 à 30 biographies écrites pour les enfants, ce qui est un genre littéraire qu'on connaît peu en France, qui est très prisé manifestement par les Américains, qui est la biographie de vulgarisation à l'égard des enfants. Et c'est vraiment une personnalité extrêmement importante, et d'ailleurs avec raison.
On a des biographies écrites en langue française ou pas sur Rachel Carson?
Sur Rachel Carson, je crois pas.
Oui, c'est quand même incroyable. Il faut le faire, Valérie Chansigaud.
Il faut trouver un éditeur qui serait...
qui s'embarquerait dans cette idée-là, avec ce personnage des années 60, en tout cas.
C'est pas évident.
Et George Sand aussi a été considéré quand même comme l'auteur français de la nature ou pas?
Alors, ça, c'est toujours le problème des Français à l'égard de la littérature sur la nature. George Sand écrit des livres champêtres. Le cadre, c'est la campagne. Le sujet, c'est pas la nature. Lorsque Rachel Carson écrit ses livres sur la mer et ses habitants, le seul sujet, c'est la mer et ses habitants. Elle le fait avec des précisions scientifique, elle est irréprochable de ce côté-là, avec les outils de l'écrivain et des trésors de littérature. Chez George Sand, on ne trouve pas ce genre de choses. C'est autre chose. C'est un autre style. C'est une autre démarche.
Voilà, ce regard féminin sur la nature, on en parle ensemble dans cette première demi-heure de la Terre au Carré. Valérie Chansigaud, ça commence donc demain et jusqu'à lundi à Perpignan. Et les auditeurs nous rejoignent avec des messages et des témoignages pour vous sur le site Au Standard et sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Cronier, le vendredi, on parle de l'écologie ici, à Radio France, et vous nous emmenez aujourd'hui à la rencontre de collègues un peu particulières. On parle aussi au féminin.
Oui, discrètes, on ne les voit pas beaucoup, mais vous allez les reconnaître très vite en les écoutant. Vous êtes prêts? J'approche mon micro.
Ça ressemble à des abeilles, a priori.
Les abeilles de Radio France. Vous savez combien il y en a?
Non, pas
au
du
moins
tout.
90 000 en ce moment. Ça peut monter à presque 400 000 l'été, habitantes de 6 ruches installées au pied de la maison de la radio. Mais attention, vous vous en doutez, on n'entre pas comme ça dans le rucher, même si les variétés ici sont plutôt cool. Hein, elles sont choisies pour être adaptées à un environnement citadin. C'est tenue obligatoire.
Ça, c'est des tenues... Voilà, c'est des tenues qu'on prête.
Et à la manœuvre, c'est le président de l'association apicole de Radio France, Jean-Christophe Rousseau, musicien du chœur, aujourd'hui retraité.
Donc, un camail pour le corps, disons.
Hop là!
Et sur la tête...
Voilà, le kit complet, grande combinaison blanche et le chapeau avec voile protecteur autour du visage, ça s'appelle un camail, pour se protéger non pas de l'agressivité, mais de la réaction potentielle des abeilles.
Il n'y a pas d'animaux agressifs. Qu'on le dise bien, qu'on le sache bien. Il y a des moments où, si on s'y prend mal avec les abeilles et qu'on déclenche chez elles une réaction qu'on qualifie d'agressif, qui n'est jamais qu'une réaction de défense à des stimuli qu'on a apportés avec nous et elles réagissent normalement.
Du coup, pour les prévenir qu'on est là, mais aussi les calmer, il y a...
Voilà, l'enfumoir, comme son nom l'indique, sert à faire de la fumée. Et la fumée va masquer les odeurs et les phéromones.
Phéromones qui leur permettent de communiquer pour signaler un danger, par exemple.
Et d'autre part... Les essaims apprennent petit à petit que cette fumée, c'est l'apiculteur et que lui, il n'est pas dangereux.
Les abeilles sont donc prévenues. On arrive, on ouvre l'une des 6 ruches.
Je remets un peu de fumée dans le haut au moment d'ouvrir le dessus. Et là, approcher.
Micro dans la ruche, Mathieu, où les demoiselles font des réserves à l'approche de l'hiver.
Tiens, celle-là. Elle est chargée de pollen et elle se repose un peu parce qu'elle a été chercher ça, par exemple, au bois de Boulogne, donc il y a 1500 mètres.
Ah, elles vont loin, elles parcourent un peu de chemin.
Le rayon d'action d'une abeille, c'est 3 km.
Ou celle-là aussi, elle est pleine de pollen,
dis donc. Elle est bien chargée de pollen, oui, de pollen jaune.
Comme si elles avaient des petits ballons sous les pattes,
des pelotes. Et leurs pattes arrière ont des petites brosses pour pouvoir stocker ces pelotes. qui restent bien accrochés pendant le vol.
Attachez vos ceintures. Pollen et nectar qu'elles trouvent en ce moment dans les tilleuls, sophoras et lierres grimpants du coin, avant les noisetiers et saules marceaux au printemps.
Ce sont des miels que moi je trouve, et un certain nombre de gens trouvent, excellent. Et on a eu une médaille d'or, donc il a été reconnu comme un miel excellent. Il n'y a aucun polluant dans le miel.
Vendu uniquement aux adhérents de Radio France. Mmh. 10 euros par an, les amis, allez-y.
Bien, ça fait combien de temps, Camille, qu'il y a des ruches à Radio France?
Bientôt 10 ans. Notre passionnant apiculteur amateur a lancé l'association après s'être formé. Objectif pédagogie et sensibilisation.
Nous ne sommes pas un rucher de production, nous sommes un rucher de démonstration. On ne va pas sauver le monde avec 6 ruches, mais c'est une activité qui est faite en interne, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui louent des ruches pour avoir l'air d'eux.
Et c'est une façon de sensibiliser aussi.
Exactement, le public, au travers des journalistes que je peux croiser dans cette maison, comme vous.
Voilà, donc je fais passer le message. Ouais. Et Jean-Christophe Rousseau, il en a un autre de message au sujet, cette fois de sa présidence.
Je suis toujours élu avec des scores soviétiques, du 100%, parce que bon, ça se précipite pas, j'ai pas grande concurrence. Mais là, ça fera 10 ans bientôt que...
Vous cherchez un successeur.
Voilà, oui, bien sûr.
Alors, avis aux amateurs, hein, l'apiculteur chanteur voudrait profiter de sa retraite à la campagne avec ses autres ruches.
Oui, de temps en temps, je chantonne. Je ne suis pas sûr qu'elle soit tellement sensible à ça, mais...
Vous nous tentez un truc?
Oh, bon. Non, il me faut l'orchestre. Amenez l'orchestre et je vous chante ce que vous voulez.
Oh, allez.
Bella figlia dell'amore. Mais c'est un air de ténor, mais je ne peux pas chanter. Je suis baryton bas, c'est un peu compliqué.
Avec le petit bzz des abeilles, c'est parfait.
Pavarotti et les abeilles.
Voilà. Et un pot spécialement pour la Terre au Carré, Mathieu.
Ah, super. On
va adhérer, je vais donner les 10 euros. Hein.
Ouais. On va le faire goûter à Valérie Chansigaud, ce miel de Radio France. Moi, je pensais qu'elles étaient sur le toit de la maison de la radio.
Non, elles sont juste
donc,
au
pied. Donc, j'apprends
pied.
Qu'elles sont en fait à l'entrée de la porte D. Valérie Chansigaud, vous en pensez quoi, vous, des ruches comme ça en ville?
Oh bah en ville, oui, pourquoi pas. Ça permet d'avoir une sorte d'animation, entre guillemets, nature.
C'est à la campagne que vous trouvez que c'est finalement pas une si bonne idée, vous?
Non, c'est pas ça. C'est qu'après, il ne faut pas tomber dans l'excès et d'installer, comme c'est un peu la tendance, des ruches de partout, parce que ça fait une concurrence effroyable pour les hyménoptères sauvages, qui sont dans une situation bien pire que les abeilles domestiques. Donc il faudrait vraiment pouvoir un petit peu mesurer son engouement.
Alors, je vous laisse goûter le miel de la maison de la radio. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais aussi mettre ma
petite... Moi, je l'ai goûté hier.
Bien. Vous l'avez goûté?
Alors?
Il est très doux.
Très bien.
Ah, voilà.
Oui. Bon.
Tout à fait.
Bon, on va adhérer. 10 euros
Allez.
L'année pour son petit pot de miel.
Il faut envoyer un mail à l'association apicole de Radio France. Voilà.
Allez, dans un instant, Valérie Chansigaud, notre invitée, pour parler du regard féminin sur la nature. C'est à Perpignan et ça commence demain.
See me rise now.
She's My Sunshine, c'était Céleste à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Valérie Chansigo, historienne de l'environnement, pour nous parler de ce rendez-vous donc demain à Perpignan pendant 3 jours sur le regard féminin autour de la nature. Alors ce sera au cinéma Le Castillet pour les films et puis également dans un hôtel.
Un hôtel particulier. Alors je suis pas de Perpignan, je sais pas si on dit PAMS ou PAN. PAMS, je suis désolée.
Voilà, ça commence demain avec 2 tables rondes en ce qui vous concerne, Valérie Chansigo. Vous avez ce livre également sorti aux éditions Buchet-Chastel, Les combats pour la nature. Est-ce qu'on croise beaucoup de figures féminines dans cet ouvrage ?
Très peu. Ben oui. On en croise, mais vraiment, elles ne sont pas majoritaires, ouais. Ce qui est assez logique.
Ouais. Donc ça veut dire que vous avez du mal à en trouver ? Vous, en tant qu'historienne, quand on fait l'effort de faire des recherches, c'est un problème qui se pose.
Disons que le problème, c'est que l'on en trouve, mais si on fait le bilan de tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés en faveur de la nature ou des animaux, c'est vrai que les hommes sont majoritaires. Oui. Ils occupent aussi pas forcément les mêmes places. Très souvent, par exemple, les sociétés Audubon de protection des oiseaux, très actives à partir de la fin du 19e, ont toutes été créées par des femmes, mais beaucoup d'entre elles ont été dirigées par des hommes. Donc, le problème après, c'est un peu comme dans les sciences humaines et sociales, où il y a beaucoup de femmes et les laboratoires sont souvent quand même dirigés par des hommes.
Robin demande sur l'application France Inter, il y a quand même des figures féminines qui se sont engagées dans le combat pour la nature. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Outre Rachel Carson, qu'on a évoqué tout
d'abord. Française, figure française,
Figure française.
Eh oui, c'est là la difficulté.
Il y a Ségolène Royal. Ou Elisabeth Borne, l'actuelle ministre de la Transition écologique.
Bien sûr, c'est votre personnage préféré, Camille, voilà. On le sait.
Je laisse la responsabilité
de cette appréciation.
Oui, alors le problème, c'est tout dépend ce qu'on entend par célèbre, c'est-à-dire qu'il y ait des femmes qui se manifestent, c'est une chose, qu'elles soient véritablement célèbres, c'en est une autre.
Des femmes qu'on est capable d'identifier quand on fait un petit micro-trottoir dans la rue.
Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup.
Il n'y en a pas, hein.
Parce que on va citer Nicolas Hulot, on va citer Danielle Cohn-Bendit, mais des militantes femmes, même s'il y en a eu, encore une fois, c'est pas. Encore une fois, il s'agit pas de se dire oui, mais la preuve qu'elles existent, puisqu'on peut en citer en cherchant bien, c'est qu'elles n'ont pas, elles n'occupent pas le même espace. Après, en termes de, par exemple, en ce qui concerne la lutte pour les animaux, pendant très longtemps, même si les choses sont un peu en train de changer. Même si les associations étaient essentiellement constituées de femmes, ceux qui s'exprimaient, qui théorisaient les questions étaient essentiellement des hommes.
Mais les choses bougent en ce moment ou pas quand même ? Vous observez
Oui. Après, comme je suis historienne, je vais avoir du mal à juger les événements immédiats parce que je pense qu'il faut toujours un peu de recul pour faire des appréciations qui ne soient pas autrement qu'idiotes. Mais je ne sais pas.
Donc, il faut qu'on vous réinvite dans 20 ans,
voilà.
Si cette Terre au carré existe encore.
Question de Marnie sur Twitter. J'ai remarqué qu'il y a toujours plus de femmes dans les manifestations pour les droits des animaux ou contre les corridas. Pour quelles raisons ? Alors, j'ai pas fait le compte. Hein. Marnie dit qu'il y en a plus.
C'est normal. Il y a toujours eu plus de femmes dans ce type de mobilisation depuis le début du 19e. Je pense pas qu'il y ait de cause simple qu'on puisse avancer en disant voilà, c'est pour telle raison, je vais vous l'expliquer en 2 temps, 3 mouvements. Je pense que ça tient beaucoup plus à la facilité qu'ont les femmes socialement de pouvoir exprimer des questions de sensibilité, d'attention à la souffrance et de difficulté des hommes dans le même temps de faire la même chose. Parce que justement, il y a quelque chose, être sensible et sensible à la souffrance n'est pas forcément toujours valorisé d'un point de vue, je dirais, viril. Et ce que l'on voit, c'est aussi l'impact, l'empreinte de stéréotypes sociaux.
Pourquoi, demande Marie sur franceinter.fr, les femmes urbaines se mobilisent plus que les femmes qui vivent plus au contact de la nature ?
Alors, qui vivent plus au contact de la campagne, ce qui n'est pas exactement la même chose. Tout simplement parce que les mouvements qui naissent au 19e, et c'est encore valable aujourd'hui, qui se mobilisent pour la nature ou les animaux, véhiculent des questions sociales et politiques qui ont un terrain plus favorable dans les villes pour tout un ensemble de raisons. Parce que la ville est aussi, ça permet une concentration d'habitants plus grande, donc des exigences de dialogue beaucoup plus plus fort. Ça permet d'avoir des classes plus aisées, donc plus susceptibles d'avoir du temps pour débattre de ces questions-là. Mmh. Et que c'est tout un enchevêtrement de causes qui explique cette différence. Mais que ça soit les combats en faveur de la nature, des animaux, ou que ça soit les combats syndicalistes, les combats en faveur des droits de plein de groupes sociaux, c'est toujours des mouvements majoritairement
alors,
urbains.
Justement, par rapport à ça, Véronique demande, vous l'avez abordé tout à l'heure rapidement, que pensez-vous du combat des écoféministes qui relie défense de la nature et défense des droits des femmes ?
Ah, c'est un vieux, une vieille discussion qui a lieu. Et c'est vrai que, comme les femmes ont historiquement, n'ont pas eu accès aux mêmes droits, aux mêmes possibilité de s'exprimer avec une situation d'être en quelque sorte inféodée, je mets des guillemets autour de ce mot, il convient pas, mais peu importe, d'être sous la domination des hommes qui, eux, avaient beaucoup plus de droits ancrés, il suffit de lire le code civil hérité de Napoléon, enfin c'est extrêmement clair. C'est une situation qui ressemble à celle des animaux. Les animaux, d'ailleurs, on pourrait rajouter les enfants. Et il y a beaucoup de sociétés qui, au 19e, vont se battre pour les droits des animaux et pour les droits des enfants. Parce que, quelque part, il y a la même situation de domination par rapport à un groupe. Les hommes, après on peut rentrer dans le détail parce que il y a des questions de classe, c'est beaucoup plus compliqué, mais en gros, il y a le même rapport de domination et d'exploitation. Et donc, c'est logique, c'est justifié de faire la liaison.
Dominique en Auvergne nous écrit sur franceinter.fr « Colette n'a-t-elle pas eu un regard unique sur la nature et les animaux ? Elle a notamment, dit Dominique, dénoncé la condition des bêtes dans les cirques ou les zoos. »
Oui, en fait, il y a encore une... Alors, beaucoup plus tôt qu'elle, il y aurait quelqu'un qui serait beaucoup plus intéressante à explorer, c'est Flora Tristan, dont on connaît le nom, qu'on ne lit jamais malheureusement, alors que c'est un écrivain absolument remarquable, elle a fait des pages absolument magnifiques, et dans ses textes, elle s'indigne aussi du traitement fait aux animaux. Il y a vraiment, c'est de ce côté-là où on aurait le plus de choses.
Ouais. D'ailleurs, il y a des figures anglo-saxonnes qui ont beaucoup fait, par exemple, pour les chevaux en Angleterre, hein, en dénonçant les conditions terribles.
Oui, tout à fait. Anna Sewell, par exemple, qui écrit Black Beauty dans les années 1870, qui se présente comme la case de l'oncle Tom du cheval. Mmh. C'est intéressant parce que la case de l'oncle Tom a été aussi écrite par une femme, et on sait le rôle de ce livre dans la lutte contre l'esclavage. Mmh. Et elle voulait faire la même chose, en fait. Elle voulait vraiment, à une époque où le cheval était omniprésent dans la société américaine, dans toutes les sociétés d'ailleurs du monde, faire en sorte que le cheval soit mieux traité.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'on trouve autant de femmes dans le domaine de la primatologie ? Alors on peut citer Diane Fosset, Jane Goodall, Sabrina Krief en France, hein, s'il y a un nom français à donner, c'est le sien.
Alors, ça a été sans doute initié à une époque par Liquet, qui était le pape de la primatologie à cette époque, qui estimait que les femmes, donc il y a Diane Fosset, il y a Jane Goodall et d'autres, étaient plus susceptibles de s'approcher des communautés de primates pour les étudier. À cela, moi je pense qu'il y a une autre lecture qu'on peut faire, qui est le fait que les étudiants hommes voulaient faire du terrain très vite pour retourner très vite dans leurs universités, passer leur thèse et avoir un poste, tandis que les femmes acceptaient
de rester très longtemps,
longtemps et de faire des choses assez, assez patientes.
Merci Valérie Chansigaud. Donc on vous retrouve à Perpignan à partir de demain. Regard féminin sur la nature, c'est ce premier festival autour de ce thème. Donc ce sera au cinéma Le Castillet et puis donc à l'hôtel Palms de Perpignan. Et votre dernier ouvrage s'appelle Les combats pour la nature aux éditions Buchet-Chastel. Merci
d'être venu à vous
dans La Terre au Carré. La chronique détox de Caroline Tourbe juste après les infos qui nous dira si l'invasion du moustique tigre est le fruit du changement climatique.
France Inter, la Terre au carré.
Alors Laetitia, il est bon ce miel, ça vous va ?
Il est divin.
Bon. Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Manuela, une auditrice qui va nous emmener à Mayotte. Elle est sur place pour nous parler d'un projet autour de la protection de la biodiversité. Et puis enfin, notre invité découverte, lui aussi, va nous emmener voyager en Sibérie. Il est ethnologue, Charles Stepanov, pour son livre « Voyager dans l'invisible » autour du chamanisme. Mais pour le moment, c'est votre chronique détox, Caroline Tourbe, avec une question. L'invasion du moustique tigre est-elle le fruit du changement climatique ?
Oui Mathieu, il est petit, il est tigré, il pique le jour, il gagne chaque année de nouveaux territoires. En France, ce moustique que les scientifiques appellent Aedes albopictus est désormais implanté dans plus de 50 départements sur 96. Et cela fait tout juste 15 ans, cette année, qu'il a débarqué en métropole.
Voilà le moustique qui fait peur à tout le monde sur la Côte d'Azur depuis que sa présence a été détectée dans quelques villes des Alpes-Maritimes. Mais apparemment, c'est une peur sans fondement, du moins si l'on en croit les spécialistes de la santé à Nice qui aujourd'hui sont catégoriques. Pour l'instant, le nombre de larves est vraiment très faible, le climat, même cet été, ne sera pas du tout tropical, comme celui de la Réunion. Bref, il ne faut vraiment pas céder à la psychose.
Bon alors à l'époque on ne s'inquiète pas, ça c'est un son de 2006 de France 3 Côte d'Azur. Le moustique est déjà là depuis 2 ans, en fait on va s'apercevoir très rapidement qu'on aurait bien fait de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que même si notre climat n'est pas devenu tropical, ce petit insecte a bien le dangereux privilège de pouvoir transmettre à lui tout seul au moins 3 maladies à l'homme, le chikungunya, la dengue et le zika. Et que contrairement à ce que le journal expliquait, eh bien ces noms, ils sont devenus familiers sous nos latitudes. Et ces infections ne sont plus considérées comme de lointaines menaces exotiques. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé a annoncé le premier cas de Zika transmis en France pour l'année 2019. Fin septembre, c'était un cas de dengue pour la première fois détecté en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ces histoires de piqûres qui arrivent tardivement dans l'année, conjuguées à une sensation de température anormalement chaude en ce début d'automne, évidemment, ça pourrait nous faire croire que le seul responsable de tous ces maux, c'est le réchauffement climatique.
Or, ce n'est pas vrai.
Et non. Comme l'explique très clairement Didier Fontenay, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et l'un des meilleurs spécialistes du moustique tigre, si la bête est devenue une menace, c'est parce qu'elle est douée d'une grande plasticité génétique.
Donc lorsque son milieu se modifie, le moustique tigre a la capacité d'évoluer rapidement.
C'est exactement ça. Oui. Son adaptation à notre espèce est emblématique. Alors qu'il vivait depuis toujours dans des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est où il s'attaquait aux animaux, il lui aura fallu seulement quelques centaines d'années pour se faire une place aux côtés de l'homme, ce qui est très rapide à l'échelle de l'évolution. Au milieu des habitations humaines, le moustique tigre s'est parfaitement adapté. Il est devenu gourmand de sang humain. Il a troqué ses cachettes humides dans les arbres pour des tas de petites coupelles et autres bidons d'eau. Il s'est tellement bien habitué à pondre ses œufs autour de nos maisons que certains entomologistes s'amusent parfois à le comparer à une poule de basse-cour.
Bon, alors le moustique tigre, Caroline, a non seulement su s'adapter à l'homme, mais aussi donc à des climats différents. Hein.
Oui, et c'est encore un coup de sa super plasticité génétique. Grâce à elle, Aedes albopictus a trouvé des outils génétiques pour s'adapter à nos régions tempérées, sans même avoir eu besoin que le climat se réchauffe. Lorsqu'il est sorti de sa zone de vie tropicale, ses œufs sont rapidement devenus capables de résister à des hivers plus froids. Ils attendent tout simplement le printemps pour éclore. Aedes albopictus, le moustique tigre, a même la possibilité de mettre ses œufs en dormance lorsqu'il effectue un long voyage. Et les longs voyages, il adore surtout en cargo.
Ah ben voilà, alors quand on sait maintenant que le moustique tigre a profité de l'expansion du commerce international pour allier donc les 5 continents. Hein.
Exactement, c'est notre mode de vie moderne qui lui a fourni les moyens nécessaires à l'expansion sur tous les continents. On pourrait même dire que nous lui avons fourni les armes pour se faire battre. Une étude restée fameuse a parfaitement démontré que le moustique tigre est arrivé au Texas dans les années 80 à la faveur du commerce de pneus usagés venus d'Asie. Au cours des dernières décennies, cette activité a généré des flux transcontinentaux de plusieurs millions de tonnes de marchandises entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques et l'Océanie. Rien à voir avec le réchauffement climatique. Tout simplement, dans les pneus usagés, il y a des petites réserves d'eau stagnante, autant de cabines première classe pour le moustique et ses œufs.
Mais le réchauffement climatique n'a aucune influence ?
Non. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, sur la colonisation actuelle, c'est certain, son rôle n'est vraiment pas central. Et toute la question, c'est de savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Est-ce que les changements climatiques vont jouer un rôle d'accélérateur de la colonisation ? C'est probable. Mais ce qui inquiète aussi les scientifiques, c'est que ce moustique particulièrement agile génétiquement côtoie des virus, celui de la dengue, du zika, du chikungunya, qui le sont tout autant. Et les virus pourraient aussi s'adapter à de nouvelles conditions, plus tempérées. Jusqu'à présent, la transmission n'est pas optimale lorsque la température passe sous les 26 degrés, mais ça pourrait changer s'il y a une sélection de souches virales. Et donc ces maladies, elles seraient alors taillées pour faire des ravages dans nos pays tempérés. Et cette petite ritournelle polynésienne pourrait alors devenir la nôtre en métropole.
Je vais voir le docteur et il me dit, boy, tu as le Zika.
Ah ben super.
C'est le groupe Berocca, qui est un polynésien qui avait fait cette petite ritournelle, cette petite chanson lors de la première épidémie.
Donc on peut faire un tube avec le moustique tigre et tu as le Zika. Merci Caroline Tourbe, à la semaine prochaine pour une autre détox. À partir de lundi, nous vous emmenons au Brésil avec une série de reportages sur les tribus amazoniennes qui se battent pour défendre leurs forêts et après les incendies justement de cet été. Et c'est vous, Guy Van Til, qui signez ces reportages pour La Terre au Carré.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis allé dans l'état du Rondônia, dans l'ouest de l'Amazonie, particulièrement touché par les feux de cet été. Mais ici, c'est depuis des décennies que la moitié de la couverture forestière qui a disparu. Les rares zones encore vertes correspondent aux territoires indigènes, comme celui de l'ethnie Uruwewa. Et voilà ce qu'on pouvait y entendre.
Impossible de sortir seul dans la forêt amazonienne la nuit. C'est assez incroyable. On entend toutes sortes de bruits, des proches, des lointains, des aigus, des graves. Le son vous enveloppe. Et on s'est un peu éloigné pour être loin des bruits du village. Je vous avoue que j'ose absolument pas m'avancer un peu plus avant dans l'obscurité de la forêt. Je vais rester sur le bord du chemin à essayer de deviner quels sont ces bruits. C'est vraiment le son de la nuit des temps. Et on se dit que décidément les Uruwewa, cette petite communauté qui vit dans cette gigantesque réserve de près de 2 millions d'hectares, ici dans l'état du Rondônia, dans l'ouest du Brésil, ont bien raison de vouloir coûte que coûte garder ce bout de forêt encore debout.
Voilà, immersion dans la forêt amazonienne. À partir de lundi, votre série de reportages, donc Guy Van Til. À lundi, merci beaucoup.
France Inter, La Terre au Carré, vos solutions pour la planète.
Et après le Brésil, direction maintenant Mayotte. Mais qu'est-ce qu'on voyage
les océans.
Sans dépenser de CO2 en plus. Hein. Alors on nous attend, Manuela qui était avec nous, à Mamoudzou, la capitale de l'île. Bonjour Manuela.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Alors pour les nuls en géographie comme moi, est-ce que vous pourriez nous resituer Mayotte sur
Mathieu.
La carte, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Donc on est dans l'océan Indien et on est situé entre la côte est de l'Afrique et Madagascar.
Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement, Manuela?
Donc moi, je suis coordinatrice d'une fédération d'associations environnementales qui s'appelle Mayotte Nature Environnement. Et on mène des projets pour protéger la nature de Mayotte.
Alors racontez-nous, puisque vous avez un projet qui est très récent, hein, qui a commencé je crois en avril de cette année, qui s'appelle Maoré a dit, pour justement Mayotte Nature Environnement. C'est quoi l'objectif de ce projet?
Oui, effectivement, Maoré a dit, en fait le but c'est de rendre la population actrice de son environnement à travers des actions de communication et de sensibilisation. L'objectif Maoré a dit, Maoré ça veut dire Mayotte en fait, en Chimaoré la langue locale. Et le but c'est de faire parler Mayotte et de dire que Mayotte va mal au plan environnemental et de donner des indices pour qu'elle aille un petit peu mieux et de donner des astuces, des gestes que tout le monde peut faire chez soi aussi et prendre conscience de l'environnement qui nous entoure.
Qu'est-ce qui va mal particulièrement dans votre département en termes environnemental?
On a pas mal de soucis sur la forêt qui régresse, les forêts de Mayotte qui sont victimes d'énormément de brûlis. C'est-à-dire c'est une technique pour brûler tout ce qu'il y a, toutes les surfaces couvertes, arborées, pour pouvoir refaire de la culture, de l'agriculture. Souvent de la monoculture malheureusement, ce qui ne permet pas d'enrichir les sols. On a d'autres soucis sur le braconnage par exemple d'espèces telles que les tortues marines.
Donc la particularité de ce projet, c'est de défendre la biodiversité, parce qu'il faut dire qu'à Mayotte, vous avez vraiment un hotspot avec des espèces endémiques, donc par définition qu'on ne trouve que chez vous. Hein.
Oui, exactement. On est vraiment sur un hotspot de biodiversité, notamment lié à notre situation dans l'océan Indien. On a donc effectivement ces espèces endémiques qui n'existent que sur Mayotte, par exemple. On a quelques plantes qui vivent tout en haut d'un sommet de Mayotte, mais c'est aussi sur la diversité des espèces et le nombre d'espèces présentes que l'on a. Notamment par exemple les mammifères marins, on a un quart des espèces marines qui circulent autour de Mayotte. Mmh. L'espèce marine mondiale, pardon.
Les gens autour de vous, vous dites on veut les sensibiliser, ils ne sont pas du tout sensibles aux questions environnementales, les gens que vous voyez ?
Non, assez peu. Assez peu, on est dans un territoire qui est quand même pauvre.
Oui, on rappelle.
Plus pauvre d'Europe.
On rappelle que Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France.
Les enjeux ne sont pas forcément sur l'environnement. Mmh. Alors que malgré tout, si notre environnement va mal, on ne peut pas s'autosuffire en nourriture notamment. L'absence de forêt, la diminution de forêt, fait que notre ressource en eau diminue drastiquement aussi. Et là, vous voyez, on arrive en période des pluies, il est grand temps qu'il commence à pleuvoir pour assurer l'eau potable à tous.
Alors Manuela, quelle idée vous avez eue finalement pour sensibiliser la population à ces problèmes de biodiversité à Mayotte ?
Eh bien en fait, donc c'est plusieurs organismes environnementaux du territoire qui se sont réunis, on était une dizaine, pour élaborer cette stratégie de communication. Et elle tourne autour d'un conte écrit en chimaoré et en français. Mm-hmm. Ce conte, parce qu'en fait ici la culture est plutôt orale, les choses se transmettent de vive voix. Et ces contes, ils racontent ce qu'était Mayotte avant, dans un temps indéfini auparavant. Comment la population vivait en fait en harmonie avec la nature et puis amène la modernité, ce qu'on appelle ici la modernité, mais qui va avec toute cette société de consommation qui nous pousse à consommer, à faire venir beaucoup de choses de métropole ou même de Dubaï, de Chine. Et puis le fait qu'on n'ait pas réussi à prévoir tous ces apports de futurs déchets notamment et ces apports de pratiques. Et en fait, le compte se termine par des astuces justement sur ce que l'on peut faire nous maintenant à notre échelle pour essayer d'arranger les choses. Et ce compte, en fait, il est ensuite adapté en bande dessinée, c'est-à-dire un petit dessin, une petite animation qui est passée sur la télévision locale, sur les deux chaînes locales, et puis en spot qui est traduit en spot radio. Et puis, on est présent avec des banderoles et des kakémonos, des outils de communication sur tous les événements du territoire, environnementaux en tout cas, et on va essayer d'aller faire d'autres événements qui nous concernent un peu moins au premier abord, mais qui concernent en fait toute la population.
Voilà, donc ces contes traditionnels qui sont portés par des personnages maorais, justement, soit réels, soit imaginaires. Et la première thématique pour vous, c'était la mangrove, justement, pour sensibiliser. Oui. Et je crois que vous allez poursuivre avec d'autres thèmes comme ça.
Oui, complètement. En fait, on a eu une première campagne de lancement donc en avril 2019 qui a permis de situer un peu la campagne, d'annoncer nos personnages et d'annoncer un peu le concept de la campagne. La campagne Mangrove a commencé en juin et se poursuit. Et en 2020, on va faire deux nouvelles campagnes. Et deux autres campagnes auront lieu également en 2021 et deux autres en 2022. Pour l'instant.
Merci beaucoup Manuela. En tout cas, bonne journée à Mayotte avec cette association Mayotte Nature Environnement et Maoré Adi, donc cette initiative de compte pour sensibiliser à la biodiversité magnifique chez vous. Merci, bon week-end Manuela.
Au revoir.
À très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, dans un instant, notre invité découverte est l'ethnologue Charles Stepanov pour un livre « Voyager dans l'invisible » qui parle du chamanisme en Sibérie. Et ce sera après Kerenan, la mauvaise fortune.
La mauvaise fortune à la lumière rare de nos nuits de pleine lune, de ton heure de gloire. La bonne malchance, c'est le court-circuit de ton indifférence, du soleil de minuit. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Cette fois, elle porte à bout le bras, un bout de toi peut-être, vêtu d'un beau costume. La mauvaise fortune est un chien de garde, mais je n'en vois qu'une quand je te regarde. Elle allume les phares de ces nuits d'hiver, de ton cœur noir, de tes yeux clairs. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Cette fois, elle porte à bout de bras un bout de toi, peut-être, vêtu d'un beau costume.
La mauvaise fortune, c'était la voix de Kerenan.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Charles Stepanov.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, professeur à l'École pratique des hautes études et vous publiez donc aux éditions de La Découverte Voyager dans l'invisible, sous-titré Technique chamanique de l'imagination, un livre préfacé par l'anthropologue Philippe Descola. Et là, nous sommes justement en Sibérie, sur un terrain Touva que vous connaissez bien. Vous êtes allé là-bas de nombreuses fois. Et donc là, on entend une chamane qui s'appelle Aksinia et qui illustre justement l'endroit où on se trouve, car on apprend, entre autres dans ce livre, que les chamanes sont nés en Sibérie.
Alors le terme chaman vient de Sibérie, où les chamans sont nés exactement, on aura du mal à le dire, hein, étant donné que c'est une tradition orale qui a pas laissé de traces. Mais le mot lui-même, qui a intéressé l'Occident, il vient d'une langue sibérienne, évinc, c'est passé par le russe, et ensuite à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des voyageurs occidentaux, hollandais notamment, allemands, qui ont popularisé ce terme. Ça a été traduit dans toutes les langues. Il y a vraiment eu un gros intérêt dès le 18e pour les chamans et ses pratiques.
Ouais, on entend le tambour là dans cet extrait. C'est un instrument qui a un rôle très important dans la culture chamanique.
Oui, c'est vraiment l'instrument commun à toutes les traditions chamaniques, quels que soient les peuples en Asie du Nord, hein, en tout cas. Mm-hmm. Alors, il est utilisé par les spécialistes rituels dans certaines régions, et alors que dans d'autres régions, chaque famille peut en posséder, même chaque individu peut l'utiliser. Mais c'est vraiment l'instrument qui va permettre la communication avec les esprits.
Et justement, Charles Stepanov, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du chamanisme ?
Dont on a une idée très vague en Occident quand même. Hein. On y met une dose de New Age, évidemment, on pense aux champignons hallucinogènes. Ça se limite à peu près à ça.
C'est vrai qu'on met pas mal la transe hein, comme critère du chamanisme, et en réalité, c'est souvent lié à une incompréhension. C'est-à-dire que les premiers voyageurs occidentaux, ils voyaient des chamans qui sautaient, qui dansaient, ils comprenaient rien du tout, ils disaient ils sont en transe. Ensuite, les ethnologues ont fait un travail beaucoup plus approfondi en apprenant la langue et on s'est rendu compte que ces chants, bah, c'est extrêmement riche, c'est versifié, c'est des poèmes absolument magnifiques, c'est pas du tout du délire. Ce sont des traditions très très variées qui mobilisent une iconographie, des savoirs linguistiques au niveau grammatical, c'est fantastique. Donc voilà, nous les ethnologues, on montre quand même que tout ça est construit et qu'il s'agit, moi je définirais ça comme un mode de division du travail cognitif. C'est-à-dire, de même qu'on a une division du travail pour les techniques, eh bien pour le mental aussi et le rapport à l'invisible, eh bien dans ces sociétés, on confie certaines tâches à des spécialistes qui ont plus de talent, tout simplement, que les profanes.
Donc ça veut dire qu'ils ont des compétences particulières pour, justement, l'invisible.
C'est ça, ouais. Exactement. C'est vraiment le trait commun, si on compare toutes les traditions de Sibérie, d'Amérique ou d'Océanie. Le critère pour être chaman, c'est de voir l'invisible. Alors qu'est-ce que ça veut
c'est
dire ?
C'est quoi l'invisible ?
Oui, qu'est-ce que c'est l'invisible ? En fait, c'est tout ce qu'on a comme perception, c'est comme ça que moi je l'interprète, perception qui passe pas par les sens. C'est le rêve, par exemple. Chacun de nous, on a des perceptions qui passent pas par les yeux. Le rêve, la rêverie, on peut se projeter dans des scènes imaginaires quand on est dans le métro, en pensant à ses vacances futures, voilà.
C'est l'esprit, en fait.
Oui, l'œil de l'âme, hein, si on veut, on peut appeler ça comme ça, l'œil de l'esprit, toutes les visions qu'on peut avoir en interne.
Mais vous dites que dans nos cultures, justement, il y a une césure très forte entre l'imaginaire et le réel. Or, précisément, dans la culture chamane, c'est pas le cas.
Voilà, exactement.
Le réel est aussi de l'imaginaire, hein, et du ça. Rêve.
C'est une, par comparaison, on se rend compte qu'on a un rapport très très bizarre, nous, occidentaux, aux images mentales et aux rêves, puisqu'on les a séparés du réel. Et on se rend compte, ça apparaît chez les Grecs, c'est tout à fait particulier, mais dans la plupart des autres sociétés, le rêve, ça nous permet d'entrer en communication avec le réel. C'est un aspect fondamental du rapport des humains à leur environnement, en particulier au milieu vivant et aux animaux. Et c'est là que je fais le lien avec le chamanisme, c'est que les chamans, c'est des gens qui vont être capables de se projeter dans les mondes des animaux, dans la vie de la forêt, dans toute cette écologie de relations. En mobilisant l'imagination, le voyage mental et le rêve.
C'est en cela que vous dites que nous sommes tous chamans, finalement. Nous avons tous une âme de chaman en puissance,
voilà,
dans cette capacité qu'on a à libérer l'imaginaire, à rêver.
C'est ça, l'idée, c'est que l'humain, c'est un animal qui a une puissance au voyage mental absolument extraordinaire, unique, et notamment dans le fait de la partager. Alors, des expériences qui montrent probablement que les rats sont capables de faire des voyages mentaux, mais ils ne le partagent pas. Nous, on a le langage, l'iconographie qui nous permettent de faire des rêves éveillés tous ensemble.
Alors, je vais vous poser une question un peu naïve, faussement naïve. C'est quoi le rapport entre le chamanisme et l'environnement, en fait?
Alors, c'est central, hein, quand on se rend compte, tout l'objet des rituels chamaniques, ça va être de régler des problèmes avec le milieu vivant. C'est-à-dire, typiquement chez des sociétés de chasseurs, eh ben, le gibier qui n'est plus là. Alors c'est dû à quoi? Eh ben, on cherche un chasseur, peut-être il a manqué de respect à un moment, il est allé tuer un ours qui dormait dans sa tanière sans le réveiller. Alors on a des obligations éthiques, c'est un peu chevaleresque, si vous avez tué un ours, faut le réveiller d'abord, faut que vous preniez des risques vous aussi. Voilà. Et donc là le chaman va intervenir pour trouver la cause et réparer, et pour réparer ça va être des sacrifices, des offrandes, donc il contribue, vous voyez, à transmettre une relation éthique avec de la réciprocité avec l'environnement, tout à fait opposée à, en caricaturant un peu, en Occident, une relation qui est beaucoup plus d'appropriation destructrice, qui fait de l'environnement une ressource.
On va écouter un petit sujet autour d'un chaman médecin, toujours en Sibérie, pour en discuter ensemble.
Il y a une grande accumulation de sel dans ton dos, car ton âme souffre et tu te tracasses trop.
Oui, je suis inquiet à cause de mon travail.
En quoi les pierres vous aident à comprendre la situation de votre patient?
Tout d'abord, elles m'aident à me représenter la vie du patient à l'instant précis. Cela me permet de voir les endroits qui le font souffrir. Ensuite, je cherche les liens entre les deux et propose mon diagnostic.
En fait, la première étape de la consultation est assez proche de celle que je peux faire moi, sauf que moi, j'utilise pas les pierres.
C'est le chamanisme. C'est l'énergie ancestrale qui nous est transmise à travers les pierres.
Voilà, le chaman médecin, ça c'est un rôle fondamental aussi au sein d'une société.
Alors médecin, guérisseur, thérapeute, là on a un chaman qui reçoit quelqu'un et qui va lui donner des conseils. C'est vrai que les gens viennent consulter, notamment pour la thérapie. C'est un peu le rôle universel hein, dans toutes les traditions. Après, il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter, un rôle plus communautaire.
Ouais.
Des grands rituels, des sacrifices.
Charles Stepanov, est-ce que notre imaginaire à nous, occidentaux, serait atrophié? Vous parlez d'une nouvelle écologie de l'imagination finalement. Moi j'aime bien ce terme.
Oui, parce que l'idée, c'est que l'imagination est au cœur de nos rapports écologiques hein, avec tous les êtres vivants qui nous entourent. Et si on prend l'évolution de l'humain, c'est sûr que l'humain a acquis son rôle en développant une imagination fantastique. C'est ce qui lui a permis d'être un grand prédateur en se mettant à la place de ses proies. Hein. Et du coup, on peut se dire, nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos sociétés de cette puissance imaginative, des capacités de rêver, on en fait un peu un rebut de la vie psychologique, alors que dans d'autres sociétés, c'est absolument central et ça donne accès à des positions sociales importantes. D'être un grand rêveur, c'est un statut important.
Alors, les cérémonies sont entourées évidemment d'une sorte de mystique et de mystère. Vous avez déjà assisté à des cérémonies, c'est comment?
Ah oui, bien sûr, oui, j'ai fait ma thèse.
Vous avez le droit d'en parler?
J'en ai fait beaucoup. Oui, non, c'est pas du tout mystérieux. Enfin, il y a aussi un aspect très quotidien. Des gens vont consulter parce qu'ils trouvent pas de boulot pour savoir avec qui ils vont se marier, s'ils ont perdu leur passeport. des choses aussi simples que ça, de la divination sur n'importe quel thème, hein, vraiment les plus banales. Et puis les esprits, ben, on peut rigoler avec eux, ils boivent, voilà.
C'est bon, ça. Ils sont cool les esprits finalement. Invitation au rêve, Camille, on retient ça. Ça s'appelle Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination. Préface Philippe Descola, c'est aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup Charles Stepanov d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La Terre au Carré. Bon week-end à tous.